Alors, donc cette webconférence traitera de sujets qui intéressent particulièrement les chefs d'entreprise. Quelles sont les actions à mener pendant cette crise d'un point de vue social, fiscal? Comment convoque-t-on l'Assemblée générale en temps de crise? Donc, Maître Fawaz nous fera l'honneur de nous présenter durant une trentaine de minutes les points importants à savoir. Et ensuite, elle répondra à des questions que nous avions reçues de la part de chefs d'entreprise sur le sujet. Donc, avant de démarrer cette webconférence, je tenais à repréciser que nous avons à disposition sur le jury de travail une page spéciale qui répertorie tous nos articles ainsi que les plannings de prochains webinaires concernant la crise sanitaire actuelle. Donc, vous trouverez tout ça sur www.jurytravail.com/coronavirus. N'hésitez pas à la consulter. Et enfin, si vous avez besoin de conseils juridiques, les coordonnées de Maître Fawaz sont sur la présentation que nous ferons défiler. Donc, n'hésitez pas à la contacter suite à cette webconférence. Et ben, je vous laisse, Maître Fawaz, faire la présentation.
Alors, je vous remercie pour votre invitation. Effectivement, pas mal de nos clients et notamment des chefs d'entreprise ont, à travers différentes problématiques, dû gérer cette crise de Covid-19 qui aujourd'hui sévit actuellement depuis environ plus d'un mois et demi en France. Les mesures de confinement ont été décidées par les pouvoirs publics à compter du 16 mars 2020 et depuis lors, il a fallu pour l'entreprise gérer cette crise. Gérer la manière dont effectivement le chef d'entreprise devait faire face aux différentes problématiques, les problématiques en termes de salariales, les problématiques en termes de charges sociales, les problématiques en termes de gestion de trésorerie. Et c'est effectivement les problématiques en termes de convocation des assemblées générales et des relations et de l'interactivité avec ses associés. Et effectivement, dans le tissu industriel, le tissu entrepreneurial qui existe aujourd'hui en France, en tant que professionnel expert, nous avons été, mon cabinet et moi-même, très sollicités sur ces différentes questions. Donc, il nous a paru intéressant, effectivement, lorsque vous m'avez proposé cette invitation, de revenir sur différents points. Différentes problématiques qui sont des problématiques que, en tant que professionnel, en pratique, ce sont des problématiques que nous avons eu à aborder et à des questions très terre à terre que le chef d'entreprise a pu nous poser. La première question que le chef d'entreprise, effectivement, est venu nous poser, c'est quid des mesures sociales à prendre? Effectivement, lors du début du confinement, aux alentours du 16 mars, la situation était très confuse, notamment par rapport aux organismes sociaux, par rapport à la directe, par rapport à l'URSSAF et par rapport aux différentes caisses sociales de retraite qui sont effectivement un des interlocuteurs de l'entreprise. En termes de mesures sociales directes, quid du personnel? Est-ce que nous devons effectivement mettre en œuvre la gestion du personnel? Comment on doit gérer le personnel? Est-ce que l'activité de l'entreprise nécessite un personnel qui continue et qui poursuit son activité, que ce soit en télétravail ou effectivement directement dans l'entreprise? Comment mettre en place des mesures organisationnelles qui préservent la sécurité et la santé des travailleurs et des salariés? On voit actuellement le cas de Amazon, effectivement, qui il y a 2 jours a eu une décision du tribunal de Nanterre qui l'a enjoint à respecter un certain nombre de règles en matière de sécurité des postes de travail et qui a décidé, en tout état de cause, à l'issue de cette décision de justice, de fermer ses entrepôts et de limiter totalement son activité, alors que la décision de justice qui a été prise par le tribunal de Nanterre, en réalité, lui demande de limiter son activité au commerce essentiel, ce qui est l'esprit, effectivement, de l'ordonnance. Mais Amazon a décidé, effectivement, parce que je pense que ça lui coûtait énormément d'argent, plutôt de fermer ses sites sur la France. Donc voilà un exemple de gestion qui a été un peu chaotique pour une entreprise, une grande entreprise comme Amazon. Effectivement, le chef d'entreprise se trouve confronté à plusieurs modalités. Il y a d'abord une possibilité qui est, à mon sens, la possibilité la plus sécurisante pour le travailleur, c'est le télétravail. Le problème du télétravail, c'est vrai qu'il induit une efficacité qui va être, quoi qu'on en dise, compte tenu effectivement des conditions de chacun, un peu moins en termes de productivité, on aura une productivité qui est minorée. Le télétravail, effectivement, c'est une organisation qui, en droit du travail, nécessite habituellement l'accord du salarié. Donc ça, c'est effectivement un des points importants sur lesquels vous devez vérifier l'accord de votre salarié. En général, et face à la crise et face à la peur de perdre son emploi au retour de la crise, les salariés, en général, acceptent très facilement le télétravail. Dès lors que vous leur mettez à disposition des moyens électroniques adaptés pour qu'ils puissent mettre en place le télétravail. Un des exemples effectivement que j'ai eu pendant ce mois de confinement, donc rétrospectivement depuis un mois, hein, puisque le confinement a été décidé le 16 mars et qu'on est le 16 avril, j'ai eu pas mal de salariés qui m'ont effectivement contacté en me disant « Est-ce qu'on doit mettre en place le télétravail alors que notre employeur ne nous donne pas les outils ?» utile pour le télétravail. Effectivement, en général, l'employeur doit mettre à disposition un outil professionnel sous la forme d'un ordinateur portable, au minimum. Effectivement, peut-être aussi d'un scan s'il y a énormément de choses à scanner. En tout cas, un ordinateur qui permette aux salariés de se connecter à distance et lui mettre également en place les logiciels, les différents logiciels susceptibles d'être utilisés et qui lui permettent et qui doivent être installés sur son ordinateur professionnel pour lui permettre d'avoir un accès à distance au serveur de l'entreprise. Donc ça, effectivement, c'est une possibilité. Encore faut-il que cela concerne des entreprises où le télétravail est possible. On sait très bien qu'il y a pas mal d'entreprises où le télétravail est possible une journée ou deux, mais que le reste du temps, on a besoin d'avoir effectivement soit un accueil physique, soit une logistique sur place, et le télétravail dans ce cas-là n'est pas forcément quelque chose d'intéressant. Une autre particularité du droit du travail, c'est qu'il ne faut pas oublier effectivement qu'en cas de force majeure, et l'épidémie de Covid-19 a été déclarée par l'OMS en janvier 2019 dans une décision de l'OMS comme un cas de force majeure, il a été indiqué que le recours au télétravail peut être imposé aux salariés. Donc, effectivement, si vous avez un salarié qui conteste les conditions dans lesquelles il exerce son télétravail, vous pouvez recourir effectivement exceptionnellement. Le cas de force majeure est toujours exceptionnel. Effectivement, c'est quelque chose à manier avec précaution parce que les juridictions françaises n'ont pas encore statué sur ce cas de force majeure. Mais vous pouvez vous référer effectivement à une décision de l'OMS qui date de janvier 2020, au moment où en fait le coronavirus, le Covid-19 est apparu en Chine. Et cette décision de l'OMS qui date pour mémoire du 20 janvier, enfin de la seconde quinzaine du mois de janvier, est une décision qui effectivement explique que le Covid-19 est un cas de force majeure. Donc ça peut être une décision sur laquelle vous pouvez vous référer. Alors, que faire en cas de refus du salarié de télétravailler? Alors, lorsque le salarié refuse de télétravailler, il y a certainement une raison d'abord. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué, il faut lui mettre des outils à sa disposition. Notamment, j'ai eu pas mal de cas de refus de salariés de travailler parce que les outils n'étaient pas à leur disposition et qu'il était impossible pour eux d'effectuer leur travail en temps et en heure et avec la même qualité que celle qu'ils avaient avant le confinement. Dans ce cas-là, effectivement, en cas de refus du salarié de télétravailler, il faut que vous justifiez lui avoir mis en place les outils nécessaires au télétravail d'abord. Et ensuite, si effectivement toutes les conditions ont été mises en place pour pouvoir permettre à ce salarié de télétravailler, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison valable au salarié pour refuser le télétravail. Donc, le recours au télétravail peut être fait sans l'accord du salarié. Il faudra effectivement lui écrire une lettre, lui expliquer que le télétravail, que nous sommes dans une situation exceptionnelle, dans une situation qui peut être considérée comme un cas de force majeure, et à ce moment-là, le recours au télétravail peut être fait sans l'accord du salarié. Alors ça, effectivement, ce sont pour les entreprises qui sont soit fermées au public, soit qui ont une activité de bureau. Alors, quid des entreprises ouvertes au public? Donc, il reste effectivement pas mal de professions et on les salue à travers ce webinaire. Il existe effectivement pas mal de professions où l'accueil au public est indispensable, notamment je pense aux supermarchés, je pense effectivement à des activités essentielles telles que les boulangeries ou les pharmacies, où effectivement les salariés doivent être présents pour pouvoir assurer un service minimum à la société. Alors, là effectivement, vous en tant que chef d'entreprise, effectivement vous avez une obligation et vous me direz que vous trouvez cette obligation extrêmement pesante, et ça je le comprends parfaitement. C'est effectivement une obligation, c'est-à-dire que vous devez préserver les salariés en respectant strictement les mesures d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé. Alors, vous allez me demander quel type de mesures. Les types de mesures qu'il faut mettre en place, ce sont des mesures, par exemple, liées au port du masque, au port de gants adaptés. Pourquoi pas au port de blouse? Parce qu'effectivement, on a considéré qu'il y a eu des projections de salive sur les vêtements, donc pourquoi pas des blouses adaptées, notamment en pharmacie où on accueille pas mal de malades. Des mesures qui sont liées à l'accueil des clients dans le commerce, c'est-à-dire effectivement une limitation du nombre de personnes dans le commerce en fonction de la taille du commerce qui est ouvert. En général, on limite l'entrée du commerce à 2 personnes qui elles-mêmes respectent une distance de 2 mètres de sécurité minimum entre eux. On a également vu autre chose qui était extrêmement intéressant, c'était le parcours fléché. Effectivement, ça permet effectivement le parcours fléché de indiquer au client la manière dont il doit se positionner pour respecter les distances d'usage, respecter la sécurité qu'il doit mettre entre lui et le salarié. Et ce parcours de distance fléché a depuis un mois fait très utilement ses preuves. Donc, il y a des sites spécialisés qui vous permettent de se procurer ce type de parcours fléché. Et moi, je vous invite et je recommande effectivement de mettre en place ce parcours fléché dans les entreprises ouvertes au public. Effectivement, on voit comment le client doit rentrer et doit rentrer dans l'accueil, à quelle distance il doit se positionner pour respecter les distances de sécurité. Et mesure intéressante également, mais celle-là, effectivement, elle est un peu plus compliquée à mettre en place. Effectivement, c'est une sorte de bâche plastique. Il y a pas mal d'entreprises françaises qui s'y sont mis parce que, effectivement, c'est des bâches plastiques que vous pouvez absolument pas vous procurer à l'étranger puisque les exportations sont très compliquées actuellement et notamment en matière de masques. Mais vous pouvez trouver un fournisseur local qui propose ces bâches en plastique qui permettent, en fait, au niveau de l'accueil, de faire une distanciation entre le salarié et le client avec un barrage sur la projection de salive qui est l'un des éléments et l'un des moyens de contamination au Covid-19. Toutes ces mesures-là doivent être complétées par d'autres éléments, c'est-à-dire il faut effectivement que le salarié puisse se laver les mains toutes les heures, qu'on puisse lui mettre à disposition du gel hydroalcoolique, que le nettoyage et la désinfection des lieux de travail soient, si elle n'est pas quotidienne, au moins hebdomadaire, au minimum, ou bien bi-hebdomadaire, je recommande. Je sais qu'effectivement, c'est des charges importantes pour l'entreprise. Il faut également une distanciation au niveau de la manière dont désormais, dans l'entreprise, on procède, c'est-à-dire il faut éviter les réunions, toutes les réunions, même si on est dans le même bâtiment, les réunions doivent être faites par des logiciels adaptés. Il existe actuellement Zoom, il existe des logiciels qui permettent de faire des réunions sans qu'il y ait une réunion physique qui se tienne. Il faut effectivement éviter, dans le cadre du réfectoire, que les salariés soient nombreux dans le réfectoire. Donc, il faut respecter dans le réfectoire, au moment des repas, la distance de sécurité. Il faut mettre en œuvre un parcours fléché et effectivement cette distance de sécurité. Il faut régulièrement aérer les lieux. Donc, l'aération est très importante également. Et effectivement, si vous êtes dans des bureaux, évitez de manger ensemble en réunion, absolument. Voilà toutes les mesures qu'un chef d'entreprise peut prendre, qui sont des mesures qui vont le protéger Effectivement, si à la suite du déconfinement, on se retrouve avec des salariés qui entendent actionner effectivement une action en justice liée à une faute inexcusable ou à une mauvaise mise en place des mesures d'hygiène et de sécurité. Toutes ces mesures d'hygiène et de sécurité ont été validées par la DIRECT, par l'inspection du travail, et c'est des mesures de sécurité qui actuellement sont utilisées dans le secteur textile, dans le secteur de l'industrie. Donc, effectivement, voilà des mesures de sécurité pratiques, claires, que vous pouvez mettre en place et qui vous permettent, vous, en tant que chef d'entreprise, d'assurer la sécurité de vos travailleurs lorsqu'ils prennent leur emploi et lorsque l'entreprise est ouverte au public. Alors, en dernier lieu, il y a effectivement un autre moyen dans la gestion des mesures sociales. Ce sont pour les entreprises qui sont fermées au public. Malheureusement, actuellement, il y a pas mal d'entreprises qui sont fermées au public et notamment toutes les entreprises qui sont dans le secteur du tourisme, les hôtels, les cafés, les restaurants, également les entreprises qui sont liées à des activités d'événementiel, puisque cette année 2020 est une année sinistrée. Et là, effectivement, le chef d'entreprise doit, à mon sens, et c'est aujourd'hui une des constatations de la DIRECT, mettre en place ce qu'on appelle, entre guillemets, le chômage partiel, et dont le nom et le dispositif juridique est l'activité partielle. Alors aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, il y a plus de 8 millions d'entreprises qui ont mis en place l'activité partielle. Un décret qui acte de la prise en charge 100% du coût des salaires pour les employeurs a été publié le 25 mars 2020. Donc, vous pouvez être assuré, ce décret a été pris par les pouvoirs publics et il vous permet de bénéficier de ce dispositif d'activité partielle. Quelle est la conséquence en termes de salaire pour les employés? Le salarié recevra 84% de son salaire net ou 100% de son salaire brut. Donc, effectivement, il y a un différentiel de salaire pour les salariés, mais cela permet de conserver les emplois dans l'entreprise. Ce dispositif d'activité partielle, je vous le recommande quand effectivement vous vous retrouvez à l'arrêt, quand vous avez effectivement une entreprise qui est totalement fermée. N'oubliez pas que pour les activités de gestion, c'est-à-dire qu'effectivement, même si l'entreprise est fermée, si tous les postes opérationnels ne fonctionnent pas, il reste effectivement des postes liés à la gestion de l'entreprise qui peuvent toujours fonctionner. Dans ce cas-là, vous pouvez faire mettre en place un dispositif d'activité partielle, mais faites attention, si vous faites travailler votre salarié de temps en temps, déclarez quand même une journée de travail et le dispositif d'activité partielle doit être minoré. Ça concerne des postes comme le poste RH, le poste de DRH, qui sont des activités de gestion, le poste de directeur financier, parce qu'effectivement, c'est des postes dans l'entreprise où vous avez besoin toujours de faire appel à votre directeur financier, à votre directeur juridique, à votre DRH. Et c'est des gens qui sont peut-être en télétravail. Et s'ils ne sont pas en télétravail et que vous souhaitez les mettre en activité partielle, ils ne sont pas en activité partielle totalement. Et dans ce cas-là, il faut quand même qu'ils puissent travailler une à deux journées par semaine et que vous l'indiquiez à la DIRECT lors de la déclaration sur le dispositif d'activité partielle. Voilà ce que je pouvais dire sur les mesures sociales. Ensuite, quid de ce qui intéresse énormément le chef d'entreprise, parce qu'il en va de la survie de l'entreprise. On parle effectivement de la trésorerie. La trésorerie est effectivement un point très important. Il faut, pour sortir de cette crise, si l'on peut dire en meilleur état, il faut avoir un véritable contrôle accru sur la trésorerie de l'entreprise. Alors, quels sont effectivement les outils clés pour agir sur la trésorerie de l'entreprise? Effectivement, depuis le 7 mars, on peut considérer que sur le mois de mars, si vous avez reçu pas mal de paiements sur la première moitié du mois de mars, vous avez effectivement un chiffre d'affaires qui est minoré à hauteur de 50%, mais vous avez en général un chiffre d'affaires qui a fonctionné du 1er au 15 mars. C'est beaucoup plus compliqué à partir de la seconde quinzaine du mois de mars parce que les fournisseurs ne payent pas. Les fournisseurs ne sont pas payés, pardon, et les distributeurs payent moins. Au niveau des contrats, vous avez par exemple des clients qui ont suspendu leur contrat, ce qui vous fait des rentrées d'argent beaucoup moins importantes. Et vous êtes par exemple sur des projets où vous deviez prendre une avance, et malheureusement, ça s'est pas fait et cela dure depuis un mois. Donc, il faut absolument, pendant cette période critique, diminuer les charges de l'entreprise et je vous apprendrai rien là-dessus. Alors, en tant qu'expert, vous m'avez beaucoup sollicité sur la question des charges sociales et des échéances fiscales et sociales. Alors, le gouvernement a apporté rapidement une réponse aux entreprises par rapport à cela. On peut se féliciter effectivement que l'URSSAF a, pour les travailleurs indépendants et les entrepreneurs et les auto-entrepreneurs, suspendu. Alors, je dis bien suspendu. Suspendu les prélèvements pour les échéances des mois de mars et des mois d'avril 2020, qui intervenaient entre le 15 et le 20 mars 2020 et le 15 et 20 avril 2020. Ceux qui étaient prélevés le 15 mars, malheureusement, ont payé cette échéance, mais effectivement, l'échéance du 20 mars de l'URSSAF n'a pas été prélevée pour les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs. Et l'URSSAF a reconduit ce dispositif pour le mois d'avril. Elle a communiqué là-dessus en expliquant que ni le 5 avril, ni le 20 avril, elle ne prélèverait les échéances de l'URSSAF. Donc, vous pouvez être rassuré sur ce point-là. Vous pouvez être rassuré sur le fait, effectivement, qu'il y a une suspension au mois d'avril, mais n'oubliez pas que l'URSSAF n'a pas annulé. Ce seront des échéances qu'elle compte reprendre et qu'elle compte récupérer à partir du mois de mai si le déconfinement si le déconfinement intervient le 11 mai. Alors, pour les entreprises qui ont énormément de difficultés financières parce que déjà la situation et la trésorerie étaient tendues avant le confinement, il faut effectivement monter un dossier. Il faut monter un dossier avec son expert comptable. Et effectivement son juriste ou son avocat, où vous devez justifier des difficultés financières. Donc, il faut effectivement au moins présenter les trois derniers relevés bancaires, montrer qu'il y a une baisse des commandes, une baisse du chiffre d'affaires, demander une attestation de chiffre d'affaires à son expert comptable. Il faut également peut-être mettre un compte de balance, un compte de trésorerie dans votre dossier. Et vous devez présenter tout ce dossier-là à l'administration fiscale et à l'URSSAF pour essayer d'obtenir que les échéances d'impôt direct d'avril 2020 ne soient pas prélevées. En général, vous avez un interlocuteur assez rapidement au niveau de l'administration fiscale et assez rapidement, vous avez un entretien avec votre interlocuteur au niveau de la recette des impôts et des finances publiques. Alors, quid de la TVA? Alors, il faut effectivement que je vous rappelle au niveau de la TVA, malheureusement, au niveau de la TVA, l'État pensant peut-être, parce qu'effectivement, on sait très bien que les dépôts de bilan et les dépôts d'entreprise interviennent souvent à cause de la TVA, l'État n'a pas fait suspendre les prélèvements de TVA. Donc, au mois d'avril, c'est-à-dire hier, le 15 avril, il fallait déclarer sa TVA. Alors, il y a eu un assouplissement des modalités de déclaration de la TVA, c'est-à-dire que on demandait actuellement le fait que vous présentiez des factures qui sont scannées et non pas les factures originales. Effectivement, il y a eu un décret là-dessus qui permet d'assouplir les modalités déclaratives en termes de TVA. On passe par le scan, on passe par le site impogouv.fr et effectivement, l'administration fiscale sera très tolérante sur les modalités de déclaration de TVA. Et c'est surtout au niveau du montant de chiffre d'affaires que vous déclarez que l'administration fiscale est tolérante. Si vous n'avez pas accès physiquement à vos classeurs qui sont restés au bureau, vous pouvez déclarer un forfait, c'est-à-dire si vous avez une idée du chiffre d'affaires que vous avez encaissé entre le mois au mois de février et au mois de mars, vous pouvez déclarer un forfait et l'administration fiscale a indiqué que cela n'entraînerait pas de pénalité ou de mise en demeure par rapport à cela. Donc, c'est un décret qui est paru au mois de mars. Donc, pour le mois d'avril et au niveau du mois de mars, si vous n'avez pas accès à vos classeurs, déclarez un chiffre grosso modo l'administration fiscale a effectivement mis en œuvre un dispositif, dispositif légal qui assouplit les modalités de déclaration de la TVA. Alors, vous allez également me parler d'une autre incidence qui est extrêmement importante, qui est celle des liasses fiscales. On est en pleine période fiscale. Votre expert comptable avait mis les bouchées doubles pour sortir les liasses fiscales au 31 mars. Et effectivement, heureusement, fort heureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a autorisé un report au 31 mai 2020 de la date limite de souscription des déclarations de résultats 2019. Donc, c'est une mesure qui va être appliquée à l'impôt sur les sociétés et aux revenus catégoriels, c'est-à-dire les BIC, les BNC, les BA, et ceux qui sont imposables à l'impôt sur le revenu. Donc, cela concerne les sociétés qui sont soumises à l'IS, cela concerne les sociétés qui sont soumises à l'IR, et ce sont également toutes les professions libérales qui sont concernées par cela, les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs également. Cela concerne également, donc comme je vous le disais, les sociétés soumises à l'IR et notamment la déclaration de résultat numéro 2072 des SCI non soumises à l'IS et également cela concerne les déclarations, je préfère être précise parce qu'il y aura certainement des questions là-dessus, les déclarations numéro 2065, numéro 2031, numéro 2035 et 2139 et leurs annexes. Donc vous pouvez souffler. Au niveau des liasses fiscales, votre expert comptable aura la possibilité de les mettre en place jusqu'au 31 mai 2019, ce qui vous laisse un temps supplémentaire si vous n'avez pas accès à vos bureaux pour rechercher des documents et pour rechercher des justificatifs par rapport à vos dépenses et à vos charges pour vous permettre de tout transmettre à votre expert comptable afin qu'il puisse déterminer le résultat fiscal. Donc voilà également un des points positifs qui a été mis en place par le gouvernement pour soutenir les entreprises par rapport à cela. Alors, venons effectivement, donc nous avons effectivement en conclusion, au niveau de la trésorerie de votre entreprise, essayez de faire un rapide portrait, qui n'est évidemment pas exhaustif, de tout ce qui est échéance fiscale et sociale au niveau de la gestion de la trésorerie de votre entreprise. Alors, quelles sont les autres charges qui impactent la trésorerie de votre entreprise? On le sait très bien, ce sont les loyers et ce sont les factures courantes d'eau, d'électricité. Donc, il y a également un décret qui est paru suite à l'ordonnance qui a été prise, un décret qui est paru qui permet de suspendre ou de reporter les loyers jusqu'aux échéances du mois de mai. Donc, effectivement, vous devez faire un courrier à votre bailleur, lui expliquer les difficultés financières que vous rencontrez et utiliser en fait l'article 11 de la loi qui a décrété l'état d'urgence sanitaire. Et cet article 11, pour être précis, c'est l'article 11G, qui vous permet de reporter et ou d'étaler sur le long terme les loyers au niveau de votre entreprise. Donc voilà également un point important par rapport à cela et je vous invite effectivement à préparer ce courrier, à l'adresser en recommandé AR à votre bailleur pour pouvoir obtenir une suspension, un étalement. Ça vous permettra de ne pas impacter trop lourdement la trésorerie de votre entreprise. Alors un conseil personnel puisque je conseille au quotidien des entreprises par rapport à ça, c'est une bonne mesure, mais qu'il faut utiliser avec précaution. Parce que l'objectif, c'est pas d'impacter lourdement la trésorerie de l'entreprise au mois de mai. Parce que la reprise de l'activité sera quand même compliquée. Donc, à notre sens, si vous deviez prévoir un report ou un étalement des loyers, peut-être prévoyez de payer la moitié du loyer ce mois-ci et conserver par-devers vous la moitié du loyer pour pouvoir la régler sur un étalement de 3, 4, 5 mois. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de commencer à apurer vos dettes et on connaît le fameux dicton « qui paye ses dettes s'enrichit ». tout en préservant la trésorerie de l'entreprise et en permettant effectivement que dans l'entreprise, vous payez, vous puissiez conserver une partie de la trésorerie de l'entreprise qui va permettre en fait de refinancer certaines choses lors de la reprise. Voilà donc un des conseils par rapport au loyer. Alors, sur les factures d'eau et d'électricité, si l'entreprise est fermée, elles seront moins importantes au mois de mars et au mois d'avril. Vous pouvez suspendre et demander le report sans difficulté de vos factures d'eau et d'électricité. C'est prévu dans le dispositif gouvernemental, toujours à l'article 11 de la loi sur l'état d'urgence sanitaire. Donc, voilà les différentes mesures que vous pouvez prendre, qui sont des mesures immédiates et qui permettent de soulager la trésorerie de votre entreprise. Et cela, en plus, effectivement, des mesures liées au chômage partiel, puisque le chômage partiel entraîne comme conséquence que vous ne payez, vous allez peut-être faire l'avance des charges salariales parce que le gouvernement et la Direct n'ont pas répondu très rapidement au niveau de l'activité partielle, mais nous avons un retour des différentes entreprises. La Direct commence effectivement à verser et à vous rembourser les salaires des employés depuis un mois. Donc, vous allez dans les jours qui viennent, dans les semaines à venir, obtenir le remboursement des salaires que vous avez avancés. N'ayez pas d'inquiétude là-dessus. Nous avons les retours des entreprises et en général, effectivement, la Direct traite les demandes, même si je sais qu'au départ, il y a eu beaucoup de difficultés pour pouvoir déclarer son activité partielle, son chômage partiel. Voilà les mesures que je pouvais vous préconiser en matière de gestion de la trésorerie de votre entreprise. Nous allons venir maintenant plus directement à un point qui n'est pas forcément abordé par beaucoup de mes confrères et qui, à mon sens, est essentiel quand on aborde le rôle du chef d'entreprise. Quid de votre rémunération ? Parce que, effectivement, vous prenez soin de vos salariés, vous prenez soin de vos cadres et des directeurs, et quid de votre propre rémunération. Alors, il y a deux catégories. Il y a les dirigeants, effectivement, qui ne se rémunèrent pas et qui sont de simples mandataires sociaux, et il y a les dirigeants qui sont assimilés salariés. Donc, il y a pas mal, effectivement, de présidents de SA, SAS, SASU, SARL, qui sont des dirigeants qui sont assimilés salariés. Donc, vous avez été nombreux à nous poser la question, est-ce que je peux effectivement bénéficier du dispositif d'activité partielle qui est lié au Covid-19? Parce que, au-delà de mes fonctions de mandataire social, j'exerce une fonction salariée dans l'entreprise, je suis directeur technique, je suis directeur export, je suis principal commercial de mon entreprise, j'ai un contrat de travail avec mon entreprise, j'exerce des fonctions qui sont techniques, spécifiques, spécialisées. Je suis, pour un laboratoire par exemple, effectivement, le laboratoire actuellement, il n'y a pas d'activité partielle, mais par exemple pour un restaurateur, je suis le chef en cuisine, c'est moi effectivement qui cuisine le midi et le soir. Pour quelle raison je ne pourrais pas bénéficier du dispositif d'activité partielle? Rassurez-vous. Les dirigeants d'entreprises qui sont assimilés salariés et qui cumulent un mandat social et un contrat de travail et qui cotisent à l'UNEDIC et à Pôle emploi sont éligibles au chômage partiel. Donc, lorsque vous déclarez vos salariés, vous déclarez et vous également dans le cadre du chômage partiel et vous recevrez 84% du salaire net que l'entreprise vous verse dans le cadre du chômage partiel. Voilà pour cette réponse. Par contre, ceux qui n'ont pas de contrat de travail et qui ne cotisent pas et qui ne cumulent pas un mandat social et un contrat de travail, c'est-à-dire ce qu'on appelle les mandataires sociaux, eux ne sont pas éligibles au chômage partiel et votre dossier sera refusé. Donc, je vous invite effectivement à ne pas le présenter. Voilà, je voulais quand même éclaircir ce point par rapport au chômage partiel. Alors, effectivement, un autre point qui concerne le chef d'entreprise, c'est est-ce que le chef d'entreprise peut bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire au titre de la garde d'enfants? Effectivement, le président de SAS et de SASU peut bénéficier de ce dispositif dès lors qu'il remplit les conditions du dispositif. Il faut que vous gardiez un de vos enfants de moins de 16 ans et au moment de l'arrêt de travail, et que votre propre conjoint, lui, soit effectivement obligé de continuer à poursuivre son activité. Par contre, faites attention, pour les dirigeants qui ne sont pas rémunérés, ce dispositif ne sera pas ouvert. C'est-à-dire que si, effectivement, avant le mois de mars, vous ne vous rémunériez pas au titre de votre activité, il est logique, effectivement, que ce dispositif ne vous soit pas ouvert. Il faut avoir perçu au minimum une rémunération équivalente à 150 heures de travail au cours des 3 derniers mois pour en bénéficier. Et donc, je vous donne l'indication, il faut avoir perçu au minimum un salaire brut de 1522,5 euros pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Ensuite, quid de la convocation? Alors, donc voilà pour des questions très pratiques. Maintenant, quid de la convocation des assemblées générales pendant l'épidémie de COVID-19? Alors, toujours, on est en période fiscale. Vous aviez l'habitude de convoquer vos assemblées générales. Comment on fait? Alors, il y a eu un décret qui est paru, qui permet, vous, en tant que chef d'entreprise, de convoquer les assemblées générales. Vous avez le choix entre tenir votre assemblée d'approbation de compte hors de la présence physique des associés ou de différer cette tenue au-delà des 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Donc, vous avez la possibilité, si effectivement cette assemblée générale d'approbation de compte est prête et que tout était prêt avant même le confinement, vous pouvez la tenir hors la présence physique des salariés via un moyen de visioconférence, ou de différer la tenue de celle-ci si par exemple rien n'est prêt, les liasses fiscales n'ont pas été établies, vous allez bénéficier également d'un report au niveau des déclarations. Vous pouvez différer cette tenue au-delà des 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Voilà ce que je pouvais dire effectivement sur les assemblées générales par rapport à cela. Alors, comment, vous allez me dire, mais comment tenir l'assemblée sans réunir les associés? Je vais vous donner quelques précisions là-dessus. Alors, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée peut décider, donc l'organe compétent, c'est vous, hein, c'est le chef d'entreprise, ou bien vous agissez également, le chef d'entreprise peut être effectivement soit le président de SAS, soit aussi un directeur général qui agit sur délégation du pouvoir. Et vous pouvez décider que celle-ci se tiendra hors la présence physique des participants, membres de l'Assemblée ou autres personnes, notamment les commissaires aux comptes dans les SAS, ou par conférence téléphonique ou par moyen audiovisuel. Et c'est l'article 4 de l'ordonnance 2020-321 qui est venu légiférer en ce sens. Dans ce cas-là, les membres de l'Assemblée pourront participer ou voter selon des modalités que vous aurez fixées. Par exemple, vous envoyez un pouvoir, vous faites un vote à distance, ou dans le cadre de la visioconférence, vous recueillez les votes. Les décisions seront considérées comme régulièrement prises au terme de l'ordonnance que je viens de vous citer, au terme de l'article 4 de cette ordonnance. Les membres de l'Assemblée et les autres personnes auront le droit d'y assister et ils pourront être avisés par tout moyen qui permet d'assurer leur information effective à la date et à cette heure. Si le recours à une conférence téléphonique est également possible, y compris pour faire approuver les comptes annuels et même en l'absence de clause statutaire. Donc, vous avez vu que les modalités de convocation des assemblées générales ont été largement assouplies. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette option-là. Effectivement, si vous ne voulez pas mettre en œuvre cette option parce que rien n'est prêt, vous n'avez pas les documents sociaux, vous ne voulez pas effectivement les envoyer par la poste ou c'est trop compliqué, vous avez la possibilité également, et c'est une des mesures phares de l'ordonnance de 2020-318, il y a eu un allongement du délai pour approuver les comptes au-delà des 6 mois après la clôture de l'exercice. Ce délai va vous permettre de bénéficier de quelques mois supplémentaires pour achever ces travaux et de faire approuver les comptes par les associés dans les meilleures conditions possibles. C'est le cas lorsque vous êtes, par exemple, dans une entreprise où effectivement il y a pas mal de choses à aborder dans le cadre d'une assemblée générale. Peut-être que dans un climat plus serein, l'assemblée générale se déroulera beaucoup mieux. Il faut effectivement préciser que cette mesure de faveur s'applique aux groupements qui clôturent leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et le 23 juin 2020. En sont exclus de cette mesure, les groupements dont le commissaire aux comptes a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020, ce qui est logique puisque ça veut dire que tout est prêt et que rien ne s'oppose à ce que l'Assemblée générale puisse se tenir en visioconférence, souvent télé ou par téléphone ou par en conférence téléphonique. Donc le délai imposé par les textes pour tenir l'Assemblée d'approbation des comptes a été donc logiquement prorogé de 3 mois au terme de l'article 3 de cette ordonnance. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ces différentes précisions. Voilà. Donc je vous ai effectivement brossé un panel qui porte sur la gestion des mesures sociales, sur la gestion de la trésorerie, sur la gestion des assemblées générales, sachant que actuellement, ce sont effectivement tous les domaines dans lesquels le chef d'entreprise était amené à intervenir durant cette période fiscale, et cela au-delà des spécificités de chaque secteur d'activité. Et j'espère que cela vous aura aidé, et je reste à votre disposition. Vous trouverez effectivement mes coordonnées sur le site. Je reste à votre disposition pour dialoguer, et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, j'y répondrai, et nous pourrons effectivement échanger sur les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans la gestion de votre entreprise. Je vous remercie beaucoup de votre écoute.
Merci beaucoup maître, c'était très clair. Du coup, si ça vous va, on peut passer aux quelques questions que nous avions reçues de la part de chefs d'entreprise, que nous avions envoyées au préalable. Alors, nous avions une première question, est-ce que les auto-entrepreneurs vont bénéficier du décalage des charges et sous quelles conditions ?
Alors, effectivement, les auto-entrepreneurs vont bien bénéficier du décalage des charges. Je vais rejoindre effectivement ce que j'ai déjà dit en amont, c'est-à-dire que vous allez bénéficier du décalage des charges par le réseau des URSSAF, qui ne prélèvera pas ni le 15 mars ni le 15 avril 2020 ces échéances. L'URSSAF a d'ores et déjà indiqué qu'elle octroierait des délais de paiement, qu'elle ajusterait l'échéancier des cotisations sur le reste de l'année, et elle indique effectivement, elle peut donner à des auto-entrepreneurs ou à des travailleurs indépendants une aide financière exceptionnelle, mais effectivement, je vous indique d'ores et déjà que cette aide financière exceptionnelle a été plafonnée environ à 1 000 euros et que cette action sociale reste limitée à des entreprises qui ont de réelles difficultés financières. Donc voilà, effectivement, les mesures phares qui ont été prises par l'URSSAF portent surtout sur l'octroi de délais de paiement, l'absence de toute pénalité ou de majoration de retard et effectivement un ajustement de l'échéancier des cotisations sur le reste de l'année 2020. Les modalités pour l'administration fiscale, pour les auto-entrepreneurs, les travailleurs indépendants, c'est effectivement la CFE et la taxe foncière. Il est possible de demander la suspension des prélèvements mensuels. Le montant restant sera prélevé sans pénalité, sans majoration. Pour la TVA, je vous ai déjà indiqué qu'en revanche, pour la TVA, il fallait la régler parce que le gouvernement n'a pas prévu de dispositif particulier pour la TVA. Là, vous vous exposez en revanche à une mise en demeure et à des majorations. Effectivement, vous pouvez également moduler l'impôt sur le revenu que vous payez en tant qu'auto-entrepreneur en allant directement sur votre espace en ligne impôtgouv.fr. Vous irez dans les rubriques « Gérer mon prélèvement à la source », puis dans la rubrique « Gérer vos acomptes » et vous reporterez effectivement, vous pouvez reporter votre acompte ou le suspendre sans difficulté. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus.
Merci beaucoup. Alors, une deuxième question. Pour bénéficier de l'aide de 1 500 euros, il est fait référence dans les textes au chiffre d'affaires du mois de mars. Quelles règles appliquer pour ceux qui déclarent leur chiffre d'affaires sur une base trimestrielle ?
Oui, tout à fait. J'ai eu pas mal d'interrogations là-dessus. Donc, aujourd'hui, on a bien analysé le dispositif qui est mis en place par le gouvernement. Donc, là-dessus, effectivement, vous nous avez posé des questions très concrètes. Ce que je peux vous dire, c'est que le chiffre d'affaires de référence pour calculer le seuil de perte de chiffre d'affaires est précisé dans un tableau récapitulatif. Pour les entreprises qui existent depuis au 1er mars 2019, c'est-à-dire depuis plus d'un an, il faut prendre en compte le chiffre d'affaires du mois de mars 2019. Pour les entreprises qui sont créées après le 1er mars 2019, hein, qui sont des petites entreprises, il faut que vous calculiez le chiffre d'affaires mensuel moyen entre la date de votre création, par exemple, date de création au 10 septembre 2019, et le 29 février 2020, et vous trouvez effectivement un chiffre d'affaires mensuel moyen là-dessus. Alors, pour les entrepreneurs, personnes physiques qui bénéficient d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité en mars 2019, ou pour une personne morale dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé durant cette période, là encore, le gouvernement demande que, comme chiffre d'affaires de référence, vous preniez le chiffre d'affaires mensuel moyen entre le 1er avril 2019 et le 29 septembre 2019. Donc, il faut donc indiquer, pour la plupart des entreprises, il faut donc indiquer le chiffre d'affaires reçu au mois de mars 2020, en identifiant sur votre relevé bancaire, du compte bancaire de la société, les entrées d'argent. Si vous n'avez pas eu, malheureusement, de chiffre d'affaires au mois de mars 2020, dans ce cas-là, il faut indiquer zéro. Alors, attention, il faut que je vous indique là-dessus que l'aide qui est susceptible d'être versée à l'entreprise est plafonnée à 1 500 euros. Donc, on indique bien un plafond. Donc, si la perte du chiffre d'affaires est supérieure à ce montant, vous ne recevrez qu'une aide de 1 500 euros. En revanche, si elle est inférieure, l'entreprise n'aura droit qu'au montant de cette perte. Donc, ce n'est pas 1 500 euros, c'est le 1 500 euros étant un plafond et j'espère que tous les participants ont bien compris cela. Donc, vous pouvez recevoir moins. C'est ça le point également important. Voilà.
Merci. Alors, nos prochaines questions concernent des chefs d'entreprise hors auto-entreprise. Est-ce qu'un président de SAS et son directeur général non cotisant au Pôle emploi peuvent bénéficier de l'activité partielle ?
Alors, effectivement, alors, cette question rejoint ce que je vous avais expliqué pendant mon exposé, c'est que lorsque vous ne cotisez pas à Pôle emploi, ben, vous n'êtes pas salarié, vous n'avez pas de contrat de travail, vous ne cumulez pas un mandat social avec un contrat de travail et donc, malheureusement, vous ne pouvez pas disposer, vous ne pouvez pas bénéficier de ce dispositif.
Parfait. Et au contraire, nous avions la question de, étant dirigeante salariée d'une SAS, ai-je le droit au chômage partiel ? Et là, vous l'aviez expliqué également.
Exactement.
Alors, un décret publié dans le cadre de la crise a étendu le dispositif de l'activité partielle aux entreprises étrangères sans établissement en France. Mais le site activité partielle n'est pas adapté pour une demande d'une entreprise de ce type, parce qu'il faut qu'il indique une adresse française. Donc, comment faire ?
Alors, effectivement, c'est un cas qui est intervenu pour des entreprises étrangères qu'on conseille. Donc, c'est une question qui est très pertinente. Quid de ces entreprises qui agissent sur le territoire français et de ces entreprises étrangères ? Vous pouvez effectivement avoir une entité française à gérer dans le cadre d'un groupe international, mais vous n'avez pas d'établissement localisé sur la France. Donc, les salariés qui sont employés par cette entreprise étrangère ne comportant pas d'établissement en France et qui salariés qui effectuent pour le compte de cette entreprise une activité sur le territoire national peuvent être placés en activité partielle, ils sont éligibles au dispositif et bénéficient à ce titre de l'indemnité correspondante. Donc, aucun doute là-dessus. Toutefois, afin de bénéficier de ce dispositif, vous allez devoir effectivement soumettre ces salariés aux contributions et cotisations sociales du régime français de sécurité sociale et de l'assurance chômage. Donc, par exemple, pour un salarié qui partage son temps entre la France et le Luxembourg, entre la France et l'Allemagne, il faut que ce salarié ait été déclaré en France pour une activité qu'il exerce en France et que vous payiez pour ce dernier des cotisations sociales françaises. Donc ça, effectivement, c'est un des points importants qu'il faut souligner comme condition. Vous disposez effectivement à ce titre-là d'un dispositif facultatif qui s'appelle le dispositif TFE. Donc, à mon avis, vous me demandez comment vous devez procéder pour la demande d'autorisation préalable. Effectivement, pas mal de clients nous ont dit qu'ils avaient des difficultés à joindre la directe. Dans votre optique, il faut joindre la directe qui est compétente en fonction du lieu du travail du salarié. Donc, par exemple, si celui-ci travaille sur la région PACA, il faut effectivement joindre la directe de la région PACA. Et il faut joindre pour l'URSSAF, l'URSSAF Alsace. Alors, l'URSSAF Alsace, qui est également le Centre national de firmes étrangères, c'est donc en Alsace, au Centre national firmes étrangères, qui est localisé toute l'activité et toute la gestion des cotisations sociales des entreprises qui n'ont pas d'établissement en France. Et pour être le plus précise possible, on vous donnera les coordonnées de cette URSSAF, mais je peux vous dire qu'il est basé 16 rue Contact dans le département du 67 à Schiltingen. Et effectivement, il y a un numéro de téléphone, ils ont un courriel qui est le cnfe.strasbourg@ursaf.fr. Et je vous invite à leur transmettre par scan toute la demande avec la directe qui est compétente sur votre lieu d'activité. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Évidemment, rien ne remplacera également un appel à la directe qui vous donnera également une adresse mail où vous devez envoyer votre demande d'activité partielle.
Voilà. Merci, c'est très clair. Alors, la prochaine question vient d'un propriétaire de restaurant qui avait prévu de vendre son restaurant, mais du coup, sa banque lui a indiqué que les transactions étaient gelées jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que l'une des parties peut annuler la transaction sans payer la pénalité de 10%?
Alors, effectivement, c'est une question qui est souvent revenue et que je n'ai pas abordée dans mon exposé parce qu'on était limité dans le temps. Quid des contrats? Des contrats donc qui sont en cours, des contrats de cession de fonds de commerce. Vous êtes en train d'acheter un fonds de commerce, vous êtes en train d'en céder un. Quid de l'épidémie de Covid-19 et de la suspension de toutes les opérations courantes? Alors, malheureusement, il faut considérer plusieurs choses. Alors, il faut d'abord voir si vous avez dans votre contrat une condition suspensive. Alors, pour répondre plus précisément à ce monsieur, il est vrai qu'on assiste actuellement, et j'ai pas mal de clients qui m'en parlent, à un gel des crédits. Alors, les pouvoirs publics essayent d'agir sur les banques, mais les banques en ce moment, effectivement, rechignent à octroyer des crédits et il n'y a pas la fluidité que les pouvoirs publics essayent d'amener par rapport à cela. Donc, les établissements de crédit sollicités sont susceptibles de ne pas souhaiter financer l'opération au regard du contexte économique qui peut en résulter, notamment au moment de la reprise. Donc, il faut savoir que seul le refus de prêt est de nature soit à rendre caduque la promesse, soit à obliger les parties à modifier les termes et les conditions d'opération. Donc, ça, c'est clair et net. Et il faut effectivement obtenir un refus. Alors, les banques, pour ne pas engager leurs responsabilités, ne parlent pas forcément de refus, elles parlent de gel. Alors, il faut effectivement en penser à d'autres types de moyens de financement, notamment à un crédit vendeur ou à une cession progressive qui est également possible. Donc, il faut vraiment analyser la promesse synalagmatique de cession du fonds de commerce du restaurant, déterminer s'il y a ou non une condition suspensive relativement au financement via l'obtention du prêt. Et s'il y a une condition suspensive relative au financement de l'obtention du prêt, le refus du prêt est de nature à rendre caduque la promesse. En revanche, si vous n'aviez pas prévu ça dans votre promesse synalagmatique de cession du fonds de commerce, vous n'avez pas d'événement de nature à empêcher totalement la réalisation de celle-ci. Alors, c'est toujours la discussion qui est actuellement en cours entre les professionnels du droit, à savoir est-ce que le phénomène du Covid-19 est ou non considéré comme un cas de force majeure et de nature à empêcher la réalisation de la cession. Ça, ce sera quelque chose qui sera débattu au cas par cas devant les juridictions françaises. Et pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas le recul nécessaire pour vous indiquer comment les juridictions françaises vont se positionner là-dessus dans le cadre des promesses synalagmatiques. Je ne peux que vous citer cette décision qui fait désormais référence, qui est la décision de l'OMS de janvier 2020. Mais actuellement, je ne peux pas vous garantir que les juges ne décideront que l'épidémie de Covid-19 est un cas de force majeure. Je pense que chaque dossier sera étudié au cas par cas par le magistrat et ce sera en fonction de chaque espèce et de chaque spécificité que le magistrat déterminera si ou non il s'agit d'un cas de force majeure. Voilà.
Très bien, merci. Alors, on arrive sur la dernière question. Si je n'ai pas la trésorerie suffisante pour avancer les salaires, comment puis-je faire?
Alors, effectivement, c'est une question qui est souvent revenue. Le choix qui s'offre à vous en tant que chef d'entreprise, c'est soit de déclencher rapidement le dispositif d'activité partielle dès lors que vous répondez aux conditions de mise en œuvre de celui-ci. Actuellement, j'ai déjà quelques clients, mais environ 30% des clients qui ont reçu déjà des indemnisations rapides. À défaut, vous pouvez envisager également de maintenir le télétravail, c'est-à-dire que l'entreprise est ouverte et potentiellement elle est capable d'avoir du chiffre, ou soit effectivement vous n'avez d'autre recours que injecter des capitaux dans la trésorerie de l'entreprise via un financement bancaire, via un crédit relais qui reste possible dans le cadre en fait d'une trésorerie d'entreprise qui serait plus fluide. Voilà. Donc, voilà les différents moyens que vous pouvez mettre en œuvre dans le cadre d'un télé, dans le cadre, en fait, d'une avance de salaire. Et ces différents moyens ont fait leur preuve, mais sachez que, actuellement, le gouvernement est en train de payer les salaires et que les dispositifs d'activité partielle fonctionnent assez bien. Voilà.
Merci beaucoup.
Ben, c'est moi. Je vous remercie de votre invitation et j'espère que toutes ces informations permettront effectivement à des participants d'y voir un peu plus clair dans la gestion au quotidien de leur société.
Et merci beaucoup. Merci. J'espère effectivement que tout le monde aura eu les réponses à ces questions et n'hésitez pas à contacter Maître Fawaz si vous avez besoin de conseils juridiques plus poussés. Et merci encore d'avoir accepté d'animer cette webconférence. Pour tous les participants qui nous regardent, nous avons encore des webconférences prévues. Nous en avons une demain sur le chômage partiel et nous verrons si nous en voulons peut-être dans les semaines à venir. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous les transmettre. Merci encore, Maître Fawaz. Et bonne journée.
Merci encore pour votre participation et de votre invitation également. Merci, à bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.